Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
À mes côtés, Agnès Bonfillon pour toute l'actualité du samedi 10 octobre. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et ça commence par les radars automatiques qui ne font plus recette.
Pour la deuxième année consécutive, l'État encaisse moins d'argent. Et ce n'est pas seulement parce que les Français sont beaucoup plus raisonnables au volant, non. Lors du mouvement des Gilets jaunes, de nombreuses destructions d'appareils ont eu lieu. Cela dit, les autorités comptent bien revenir aux milliards d'euros atteints en 2017. Et pour cela, tout est mis en œuvre, Christophe Bourreau.
809 millions d'euros, voilà ce que les radars devraient rapporter l'an prochain, des recettes de nouveau en hausse, grâce notamment à l'arrivée de nouvelles cabines en centre-ville, beaucoup plus performantes, et à la multiplication des voitures radars. De quoi donc inverser la tendance de ces deux dernières années, qui a vu pour la première fois les rentrées d'argent diminuer. On pense bien sûr à la crise des Gilets jaunes et à la destruction des cabines. Alors, pour cette année 2020, malgré le confinement, l'État compte bien approcher les 730 millions de recettes. Toutefois, ce chiffre risque d'être revu à la baisse en raison d'un changement de comportement des automobilistes. Même si les grands excès de vitesse ont augmenté, eh bien les Français ont levé le pied dans leur grande majorité. Ainsi, la vitesse moyenne est passée de 80,8 km/h à 78,3 km/h en seulement 2 ans.
Christophe Bourreau, notre spécialiste automobile sur RTL. Dans les Alpes-Maritimes, le bilan s'alourdit encore et pourtant, il reste provisoire. Une semaine jour pour jour après la tempête Alex, un sixième corps a été retrouvé. Au moins 9 personnes sont toujours portées disparues.
Et puis Agnès, l'actualité, c'est un nouveau record de contamination au coronavirus.
Plus de 20 300 cas recensés en 24 heures sur le territoire et surtout de plus en plus de patients admis en réanimation. À Lyon, les hôpitaux annoncent qu'ils vont commencer à déprogrammer les opérations non urgentes. La ville est désormais en zone d'alerte maximale, comme Grenoble et Saint-Étienne, ce qui veut dire que les bars sont fermés pour les 15 prochains jours. Dans le Grand Est, situation bien différente, surtout par rapport à la première vague. Les scientifiques n'arrivent pas à l'expliquer, mais cette fois, la région semble épargnée par ce rebond épidémique. Prenons l'exemple alsacien avec vous, Yannick Collant.
Oui, 72 patients hospitalisés en Alsace, c'est le plus faible total depuis le mois de mars. Dans le Haut-Rhin, seulement 2 malades en réanimation. Depuis que l'on compte les patients Covid, c'est du jamais vu. Et pour autant, les Alsaciens n'ont pas atteint l'immunité collective. Michel Vernet, directeur régional de Santé publique France.
Le nombre de personnes qui ont développé des anticorps, il est un peu plus élevé, effectivement, dans la région Grand Est, de l'ordre de 10%. Alors ça, c'est des estimations régionales. Donc on peut penser qu'effectivement, au moins dans le Haut-Rhin, c'est un tout petit peu plus élevé. Mais en tout cas, ce ne sont pas des taux qui permettent d'atteindre une immunité collective.
Dans le Bas-Rhin, les plus de 65 ans sont très peu touchés par le rebond épidémique, seulement 20 pour 100 000 habitants. Josiane Chevalier, la préfète du Bas-Rhin.
Ce taux n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Si on se compare, par exemple, à Lille, ce chiffre, il est de 273. Ici, non seulement on a l'habitude de respecter la règle, mais je crois qu'il y a une crainte aussi. Ces chiffres montrent que les personnes se protègent.
Mais en Alsace comme ailleurs, on note une nouvelle augmentation de la circulation du virus ces tout derniers jours. Et pour les autorités sanitaires, il ne faut surtout pas baisser la garde. Et
Yannick Holland pour RTL. L'Alsace, justement, le premier foyer épidémique, souvenez-vous, en février dernier, avait été recensé à Mulhouse lors d'un rassemblement évangélique. D'où la très vive inquiétude des habitants de Nevoy dans le Loiret. 700 personnes sont attendues aujourd'hui par l'association Vie et Lumière. La préfecture explique que l'événement se tient sur un terrain privé, qu'il n'est pas considéré comme festif et qu'il n'y a donc aucune raison légale de l'interdire. De nombreux séminaires, mariages et autres réunions sont annulés ou très restreints. Cela explique en partie le faible taux de remplissage des hôtels. 15% des établissements pourraient mettre la clé sous la porte dans les prochains mois. À Tours, l'hôtel moderne situé en centre-ville voit son chiffre d'affaires littéralement plonger, Christian Ponvert.
L'hôtel 2 étoiles de 23 chambres, qui ressemble plus à une vieille maison bourgeoise, est situé en plein cœur de Tours, dans une ruelle calme, à seulement 4 minutes à pied de la gare. Et pourtant, depuis le début de la crise sanitaire, le chiffre d'affaires s'est effondré. Mehdi Chelabi, directeur de l'hôtel moderne.
L'année dernière, au mois de juillet, j'étais à 47 000 euros hors taxes de chiffre. Cette année, au même mois de juillet, j'étais à 22 700 euros hors taxes.
La clientèle étrangère n'est toujours pas là, les congressistes non plus. Pour éviter la fermeture, il a dû mettre une partie de ses salariés en activité partielle et répondre aux contraintes sanitaires.
De façon à ce que le virus ne circule pas à l'intérieur de la chambre, on a mis en place un système d'aération de 5 à 6 heures minimum.
Conséquence directe, les chambres ne sont plus disponibles à 14 heures mais à 17 heures, alors les clients demandent une compensation financière. Il a baissé ses prix de 56 à 48 euros pour une chambre simple et a été obligé d'investir dans l'achat de protection PVC et bien sûr de gel hydroalcoolique.
Le reportage de Christian Ponvert à Tours pour RTL.
Alors ce rebond épidémique du Covid-19, on l'abordera largement tout à l'heure avec l'invité de RTL 9h-10. Le rendez-vous, c'est Aurélien Rousseau, le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France qui sera avec nous. Il y a 48 heures, il annonçait qu'une vague allait déferler sur Paris et les départements voisins. Où en sommes-nous en ce samedi matin? Réponse tout à l'heure, 9h-10. Sophie Pétronin, elle, vient de passer sa première nuit en France auprès de ses proches. Vous allez entendre dans un instant le mari de celle qui a été otage pendant 4 ans au Mali. À tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon, la suite du journal sur RTL. Une force de la nature, les proches de Sophie Pétronin n'en reviennent toujours pas.
Elle l'a désormais ex-otage, détenue au Mali pendant près de 4 ans, est rentrée en France hier. Elle est apparue plutôt en forme, alors que son état de santé inspirait beaucoup d'inquiétudes durant sa captivité. À 75 ans, Sophie Pétronin compte bien repartir le plus vite possible pour s'occuper de son association humanitaire. C'est l'une des premières choses qu'elle édite à son mari sur le tarmac de l'aéroport. Son époux, lui, a mis de longues minutes avant de pouvoir prononcer un mot. Il racontait son émotion hier dans RTL Soir.
Je l'ai simplement dit parce que je pleurais comme un gamin. Je peux vous jurer, comme un gamin, je pleurais. Je pleurais déjà même avant qu'elle arrive vers moi. Et en plus, elle a vu d'autres personnes avant moi qui pleuraient déjà. Je lui ai glissé à l'oreille, j'ai dit « Je suis heureux de te voir libre, déjà, parce que la liberté, c'est quand même quelque chose de super important. » En plus, on nous avait annoncé une mauvaise santé, je vois que c'est pas tout à fait ça, même s'il y a besoin de quelques soins, mais t'as une force de caractère, t'as une foi terrible, tu ne fais que aider les autres, et tu te plains jamais de rien. Vraiment, tu es quelqu'un de formidable.
Émotion de Jean-Pierre Pétronin, votre micro hier, Stéphane Carpentier. Sophie Pétronin, elle a passé un message aux autorités. Une autre otage de nationalité suisse a été tuée par ses ravisseurs au Mali il y a un mois. Aux États-Unis, le débat qui devait avoir lieu jeudi entre Joe Biden et Donald Trump, eh bien ce débat est annulé. Le président refuse que la confrontation se fasse de façon virtuelle. Alors cela ne l'empêche pas de relancer la machine électorale, sa campagne. Il veut faire voir que l'épisode coronavirus est derrière lui. Du coup, ce soir, réunion publique à la Maison-Blanche et lundi, meeting en Floride. On passe au sport, au tennis. Et finalement, c'est Djokovic qui va en finale de Roland-Garros après une victoire en 5-7 face au grec Tsitsipas. Il affrontera demain Rafael Nadal. Mais avant cela, priorité aux dames. La jeune Iga Swiatek affrontera l'américaine Sofia Kenin. La jeune polonaise de 19 ans a créé la surprise durant ce tournoi.
Premiers échanges, 15h cet après-midi, bien sûr, et régulièrement sur l'antenne de RTL. Le cyclisme et la forme insolente. Agnès Darnaud démarre sur le Giro.
Le Picard vient de remporter une troisième étape au sprint devant Peter Sagan, s'il vous plaît. Le champion de France est dans une mécanique du succès qui fait plaisir à voir, Nicolas Georgerot.
C'est lui qui le dit, il est dans la forme de sa vie. Le Picard de 29 ans entame quasiment une deuxième carrière après deux saisons en demi-teinte, trois victoires d'étape en une semaine. Le champion de France, au micro de la chaîne L'Équipe, est parti sur des bases très élevées.
J'ai vraiment une équipe de ouf, donc c'est incroyable. Mis à part les bordures, ça allait être un vrai sprint aujourd'hui la totalité des sprinteurs sont au rendez-vous. Et donc forcément, ça a frotté fort à l'entrée de la ville. Et les gars ont encore fait un super boulot. Donc voilà, c'est juste énorme.
Le travail paie, et pas seulement parce qu'il déguste les tomates de son jardin qu'il se plaît à afficher sur les réseaux sociaux. Entraînement derrière scooter avec son père. Nouvelle approche des trois derniers kilomètres avant l'arrivée. Ses 13 succès cette saison en font déjà le meilleur sprinteur. Arnaud Démare ne veut pas s'arrêter là.
Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Cyclisme toujours, sachez que l'Enfer du Nord n'aura pas lieu cette année face aux mesures sanitaires imposées à Lille et dans ses environs. Le Paris-Roubaix, qui devait se tenir à la fin du mois, est annulé.
Nous allons à Lyon, Agnès, pour le cinéma et le festival Lumière.
Ah oui, là, malgré les mesures sanitaires très strictes, la 12e édition va se tenir avec les frères Dardenne en vedette, puisque le Grand Prix cette année leur a été attribué. Et de nombreuses autres célébrations sont attendues, Stéphane Boutsock.
Chaque automne, Lyon célèbre le cinéma là où il est né, en 1895, devant la caméra des frères Lumière. filmant la sortie d'une usine. Cette année, ce sont d'autres frangins, les Dardennes, qui recevront le Grand Prix durant une édition où l'on fêtera aussi le centenaire de Michel Audiard, les films d'Oliver Stone, de Viggo Mortensen, la carrière de Mélina Mercouri, entre autres réjouissances. Un rendez-vous cinéphile devenu incontournable au fil du temps, piloté par Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux, par ailleurs délégué général du Festival de Cannes. Ce soir, il ouvrira cette édition 2020 si particulière, qui est aussi donc celle des 125 ans du cinéma.
D'une certaine façon, on les aura célébrés avec un événement extraordinaire qui n'est jamais arrivé, c'est-à-dire que les salles soient fermées. Même deux guerres mondiales n'avaient pas fermé les salles, et là, un petit virus a fermé les salles du monde entier pendant plusieurs mois, et pour certaines, elles le sont encore.
Coup d'envoi ce soir depuis la halle Tony Garnier à Lyon, devant un public de 1000 personnes contre 5000 d'habitude. Mesures sanitaires oblige. Plus de 40 000 tickets ont déjà été vendus d'ici à la fin du festival, le 18 octobre, pour assister aux dizaines de projections prévues.
Notre monsieur cinéma Stéphane Boutsock qui nous fera vivre évidemment ce festival Lumière sur RTL.
Agnès Bonfillon vous a informé, elle revient à 9h tout à l'heure et vous avez RTL.fr à disposition pour tout savoir quand vous le souhaitez. Le football dans tout ça, c'est un week-end international. Place donc aux professionnels de la grosse cote comme tous les samedis matins sur RTL.